Christophe Morel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le chef économiste de Groupama Asset Management. On va parler avec vous d'économie et de marché, avec sans doute beaucoup de questions sur ce que la Réserve fédérale américaine va faire, sur bien sûr la politique monétaire qui reste aujourd'hui au cœur des questions des investisseurs et des économistes. Comment, avant de parler précisément de cet élément-là, comment vous analysez la situation économique aujourd'hui quand on regarde un petit peu à la fois les agrégats et puis bien sûr le sujet Covid?
Alors, sur l'environnement économique, nous, on est absolument convaincus que la reprise va être forte, très forte, qu'elle est peut-être même encore un petit peu sous-estimée. Et elle sera forte pour deux raisons. La première, c'est que on a ce que nous on appelle un élastique conjoncturel positif, lié au fait que l'offre est très en retard par rapport à la demande. Hein, la demande a formidablement résisté, l'offre est en retard et il y a un besoin de rattrapage, un besoin de reproduire, un besoin de reconstituer les stocks. Et donc déjà, ça va donner une très très forte impulsion conjoncturelle. Et la deuxième raison, c'est que on a des plans budgétaires qui sont exceptionnels dans leur ampleur, qui sont synchrones, et dont on peut penser que l'effet multiplicateur est sans doute plus important que ce qu'on a vu dans le passé, tout simplement parce qu'il y a justement cette synchronisation et des montants qui sont mis sur la table qui sont juste considérables. Donc voilà, je crois que sur l'environnement de croissance, pour nous, il est aujourd'hui très positif.
Alors, il y a un vrai sujet de fond, puisque vous parlez de ces plans de relance. Quand on regarde comment ça s'était passé précédemment, si on prend l'exemple américain, finalement, les Américains avaient soit épargné, soit remboursé des dettes, mais pas forcément, effectivement, dépensé autant. Est-ce que ce sujet d'épargne mondiale, parce que ce n'est pas qu'aux États-Unis, on en parle en France aussi, est un vrai sujet aussi pour l'économie?
Alors, quand on regarde effectivement l'exemple américain est très intéressant, c'est-à-dire qu'il y a des mesures d'urgence et une partie de ces mesures d'urgence soutient aujourd'hui les dépenses des ménages. Hein. Le ménage américain a plutôt fortement consommé au premier trimestre et dans cette forte consommation, on n'a que les effets du plan Trump, c'est-à-dire de fin décembre 2020. On n'a pas encore les effets du plan Biden. Et en plus de cela, il en a profité effectivement pour reconstituer formidablement son épargne. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, comme vous le dites, dans tous les pays. Nous, on pense qu'une grande partie de cette épargne, c'est une épargne qui a été forcée. C'est-à-dire que pour partie, le jour où on va rouvrir notamment les services, eh bien, les ménages vont assez normalement prélever dans cette épargne pour une raison toute simple, c'est qu'il y a aujourd'hui une grande visibilité fiscale. Et ça, c'est une très grande différence par rapport à l'après-crise financière globale, c'est qu'on a des gouvernements qui disent très clairement qu'ils n'ont pas du tout l'intention de remonter les impôts avant un certain temps. Et donc ça donne de la visibilité pour les ménages pour consommer et prélever sur leur épargne.
Alors, l'autre sujet qu'on a pu voir aussi au cours des dernières semaines, avec des remontées de taux aux États-Unis, ce sujet de l'inflation. Alors, on a l'occasion d'échanger ensemble au cours des dernières années. On sait que c'est pas un sujet qui n'a pas été abordé. Simplement, il a été mis de côté à un moment donné par la plupart des investisseurs. Et puis là, on a senti quand même qu'à nouveau il y avait des débats sur ce sujet.
Alors effectivement, c'est sans doute là, autant je pense qu'il y a un certain consensus sur la reprise, la croissance, et on le voit, il n'y a pas tellement de débat. Alors après, il pourrait y avoir un débat sur l'ampleur de la croissance. Là où il y a une vraie incertitude entre les économistes et les investisseurs, c'est sur l'inflation. Pour notre part, on pense que, il y aura de l'inflation. Il y aura de l'inflation cyclique, il y a de la croissance cyclique et il va y avoir de l'inflation cyclique. Et qu'on sera aussi surpris à la hausse sur cette inflation cyclique. Et les raisons pour lesquelles il y aura de l'inflation cyclique, c'est ça reprend les éléments que j'ai donnés tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a une impulsion budgétaire, un choc de demande très positif. Et a priori, ça doit se voir à un moment donné sur les prix. Et puis, il y a une autre raison, c'est que on a une hausse très forte du prix des matières premières. Face à cette hausse du prix des matières premières, il nous semble aujourd'hui plus probable que les entreprises répercutent cette hausse des intrants sur le prix des extrants. Pourquoi? Parce que tout simplement, les stocks sont bas, la demande qui est adressée à beaucoup d'entreprises, beaucoup de secteurs est assez forte, et donc aujourd'hui, bah, les entreprises ont plutôt intérêt à répercuter ces hausses de prix à nouveau à la sortie plutôt qu'à les répercuter sur leur profit. Donc, on pense en fait au final qu'il va y avoir sans doute de l'inflation. Maintenant, je sens dans votre question, c'est il ne faut pas craindre cette inflation. Hein. Au contraire, on la souhaitait, on craignait au contraire la déflation, et voir un peu d'inflation, c'est quelque chose qui, au final, est quelque chose de positif.
Oui, parce qu'il y a eu, voilà, dans les commentaires qu'on a pu voir, effectivement, certains envisageant le fait que ce soit purement conjoncturel et que ça disparaisse assez vite. Là, si on est dans ce schéma de reprise plus forte peut-être de l'économie, on peut se dire, effectivement, on l'a vu, vous parliez d'un certain nombre de matières premières en hausse. Récemment, on a vu aussi les matières premières agricoles aussi, depuis plusieurs mois, flamber. Donc, on voit certaines poches où, effectivement, ça va dans le même sens.
Alors oui, et ce qui pour nous est vraiment la nouvelle donne, c'est qu'il y a un vrai changement dans l'architecture de politique économique. Et en particulier, cette impulsion budgétaire, ce quoi qu'il en coûte au fond, on est convaincu qu'il va durer. Il va durer pourquoi? Parce que la menace principale auxquelles sont confrontés la plupart des gouvernements, c'est une menace d'ordre politique et social. Et face à cette menace politique et sociale, eh bien, il y a une très grande incitation à continuer de soutenir les économies. La politique budgétaire va être donc durablement en soutien, et la politique monétaire aussi. Et on voit bien, il y a des changements de stratégie monétaire avec des banques centrales qui sont un peu plus tolérantes vis-à-vis de l'inflation. Donc, on va dire, on est dans cet environnement d'architecture de politique économique qui est plutôt... Ah oui, reflationniste.
Alors, on a vu des réactions de marché hein, ces plans de relance. On a vu un peu plus de volatilité. On a vu effectivement des sujets, des questions sur des bulles, sur certains actifs. Puis, on a vu, par exemple, quand ce plan de 1900 milliards a été annoncé, par exemple, le Bitcoin flambé. Donc, on se dit qu'il y a des réactions de marché quand même qui peut-être disent aussi des choses sur la manière dont les investisseurs, ils sont effectivement en quête de rendement, et là, ils vont aller le chercher sur peut-être des produits encore plus risqués que les actions.
Alors, dans un environnement dans lequel il y a une incertitude nominale, c'est-à-dire une incertitude sur l'inflation, ça veut dire une incertitude sur ce que pourrait être la valeur finale du prix d'un actif financier, il est absolument logique qu'il y ait une reconstitution des primes du risque, une reconstitution de la volatilité sur les actifs risqués. Hein, c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui plus une hausse de la volatilité réalisée. La volatilité réalisée, c'est l'amplitude qu'on peut observer à l'intérieur d'une journée. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait normal de voir une reconstitution de la volatilité. Maintenant, passé ce moment de reconstitution de la volatilité, je crois au fond qu'on est dans un environnement dans lequel il y a la croissance, un environnement dans lequel il y aura de l'inflation et sans doute plus que ce que l'on pense, mais pas une inflation qui est à même de pénaliser sur les ratios de capitalisation, par exemple sur les marchés actions. Hein, tant qu'on a une inflation qui reste en deçà de 6%, eh bien c'est quelque chose qui ne doit pas pénaliser très fortement les ratios de capitalisation. On a des banques centrales qui ne vont pas prendre de risques avec la croissance, qui vont rester en soutien, qui vont essayer de maintenir quand même des taux d'intérêt bas, ça ne veut pas dire que les taux ne vont pas remonter. Cet environnement, il est au final assez favorable sur les actifs risqués. Donc, c'est plutôt pour nous l'idée de profiter de toute baisse sur les actifs risqués pour se repositionner.
Alors, comme je dirais, comme à chaque fois, on s'interroge sur effectivement là où sont les bulles. Alors, on a parlé de bulles sur l'immobilier, on a parlé de bulles sur certains titres. On a vu effectivement ce que j'évoquais sur le Bitcoin, sur ces crypto-actifs, avec de l'intérêt d'investisseurs institutionnels même sur ce type de d'actifs. On voit quand même qu'on essaye à peu près, par rapport à cette politique monétaire que vous rappelez, vous dites, ça va durer, de trouver de nouvelles ressources pour des rendements. Il y a des vrais sujets de rendement pour tous les investisseurs aujourd'hui.
Oui. Oui, il y a des vrais sujets de rendement, et c'est vrai que dans un monde de taux d'intérêt bas, eh bien, c'est un monde dans lequel ça ne convient pas à beaucoup d'investisseurs et on ne peut pas délivrer les rendements que souhaite le client. Donc dans ce type d'environnement, moi je crois que toujours que finalement les actions sont plutôt attractives par rapport au taux d'intérêt. Donc ça c'est cet environnement-là est favorable aux actions. Après on a des choses très particulières. Vous citez par exemple le Bitcoin. Ça c'est vraiment quelque chose d'à part parce que on est dans c'est quelque chose qui pour moi relève de la commodité digitale. Donc c'est quelque chose qui pour lequel on a organisé la rareté et pour lequel il y a une nouvelle convention qui s'organise, voilà, sur lequel que c'est un actif rare qui a un intérêt. J'ai envie de dire, ça s'approche de ce point de vue-là de ce que pourrait être l'or ou même une œuvre d'art. Donc après, il y a des endroits pour lesquels il y a des nouvelles conventions, c'est tout à fait normal, mais dans cet environnement, voilà, de croissance, d'inflation qui sera plutôt répercutée sur le consommateur, de banques centrales à nouveau qui ne prendront pas de risques, c'est un environnement qui est au fond favorable pour les actions qui sont un actif à rendement, à prime de risque et liquide.
Le mot de la fin, on parlait bien entendu de ce sujet Covid qui occupe tous les esprits. Je dirais que les économistes, les investisseurs regardent effectivement ce qui se passe, voient où les vaccins avancent ou avancent pas. Mais finalement, c'est un peu un calendrier artificiel puisqu'il peut être reporté. Si on prend le cas de la France, voilà, on sait qu'il va y avoir un certain nombre de mesures supplémentaires. Donc peut-être que le calendrier tel qu'il est prévu aujourd'hui va devoir être modifié et ça changera la donne sur l'économie.
Alors oui, c'est possible, mais au fond, alors on peut voir les choses autrement. Moi, je les vois autrement. Je vois plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Je pense que si, par exemple, on prend le dernier confinement qu'on a connu en Europe, c'est-à-dire fin octobre, début novembre, on nous avait dit à ce moment-là que même pour citer l'exemple de la France, on aurait 4 millions de vaccinations, personne n'y croyait. Donc moi, je trouve que évidemment, on est aujourd'hui très pressé d'en finir, mais au final, voilà, ça avance aux États-Unis, au Royaume-Uni. Aux États-Unis, je me souviens, en début d'année, j'envoyais ce message que les États-Unis seraient à l'immunité collective à l'été, et ça paraissait un message absolument déraisonnable. Donc, on est impatient, c'est normal, mais je crois qu'au fond, le risque aujourd'hui pour l'économie, il n'est pas tellement sanitaire, il est sur effectivement ce que vous avez mentionné, c'est-à-dire est-ce qu'il y a ou pas de l'inflation, est-ce qu'il y a du risque politique ou social, est-ce qu'on peut avoir ou pas une erreur de communication des banques centrales. C'est aujourd'hui sans doute ça qui est plus important pour les marchés financiers.
Merci beaucoup Christophe Morel d'avoir fait le point avec nous sur ces marchés et sur l'économie.
Merci beaucoup.
Hop, voilà. Alors.